Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
10h30 à la machine à café.
Tu veux quoi comme café, Alex ?
Un truc fort, si possible.
Un café serré ?
Avec un peu de whisky dedans.
Ah ouais, carrément ?
T'as pas une gitane ?
Attends, mais qu'est-ce qui te prend ? T'as viré Jeanne Moreau ?
Non, j'essaye de me mettre dans le personnage. On reçoit Eric Elmosnino, le mec de Gainsbourg.
Attends, est-ce que j'entends qu'il y a des petits problèmes de diction par ici ? Tu veux des astuces, Alex ?
Je te signale que j'ai fait le cours Florent.
Ah, toi aussi ?
Moi aussi.
Qui est la plus forte en diction ? C'est moi.
Alors ça m'étonnerait.
Ah ouais, la preuve ? Trois petites truites cuites, trois petites truites crues.
Ah ouais, bah pas de problème. Trois petites truites.
Ouais, bah raté.
Trois petites. Mais il n'y a aucun personnage de Marivaux qui a cette réplique à dire.
Les personnages de Marivaux, ils se contentent d'être cocu.
Voilà. C'est là qu'on voit un grand acteur. Moi, quand j'étais au cours Florent.
Ah ouais, moi aussi, j'étais au cours Florent en 4 ans.
Oui, on sait. J'étais très bon dans Marivaux. Ah, c'est très difficile de jouer quelque chose que tu ne connais pas.
Comme la langue du 18e, par exemple.
Le fait d'être cocu.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, c'est comme toi, Guillaume, par exemple, quand tu jouais un mec élégant, c'est pas évident pour toi.
C'est vrai que j'étais pas instinctif dans du Oscar Wilde. En revanche, dans Karl Marx, alors là, j'étais top.
Mais il n'y a pas écrit de théâtre, Karl Marx.
Et ouais, c'est ça. Mais pour mon examen de fin d'année, j'ai joué le Capital en monologue. C'est l'année où j'ai redoublé.
Évidemment. Bonjour la France Inter. Si, c'est une surprise.
C'est la grève du générique.
On a perdu le générique.
Et voilà, c'est la CGT générique.
Je le chante ou pas ? Le générique a peur pour sa retraite. Et donc...
Tout ça, c'est très artisanal aujourd'hui.
Bonjour la France Inter. Bienvenue dans la start-up de la radio publique.
Ouais.
Attention, 3-4. On recommence. Bonjour pour du vrai, la France Inter. Bienvenue dans la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour. Un bad buzz n'arrive jamais seul. Et voici les thèmes. La faillite de Thomas Cook provoque le rapatriement le plus massif depuis la Seconde Guerre mondiale, paraît-il. Sauf que cette fois, on rapatrie des gens en short et en tongs. Un signe des temps, sans doute. Rien de grave, mais beaucoup de déceptions. Là, on n'a pas de son non plus.
Bien sûr.
C'est la CGT. C'est pas en grand, vous en avez pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi ?
Eh ben, un piéton, le plus vrai.
Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie.
Allez, faites chauffer le diesel, on a plein de son. Tous les supporters de foot n'entendent pas se laisser taire. Le gouvernement exige une tolérance zéro dans les stades pour les slogans homophobes. Certains footeux y voient une nouvelle attaque des élites contre le peuple. La ministre des Sports vous dirait que c'est quand même beaucoup plus calme dans la natation.
Ta femme te porte à bout de bras pendant que tu passes ta vie à la piscine à faire tes trucs de tafiole. Tu vas devenir le champion du monde des PD en plus.
Et voilà, l'émission va être interdite. Et enfin, ce sujet passé à la trappe hier est pourtant important. Statut des maquilleuses dans le cinéma. Certaines d'entre elles se qualifient de prolétaires du cinoche. Quant à travailler avec certains acteurs ou certaines actrices, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de pénibilité ?
Ça va, c'est pas trop vulgaire, ça va ?
Même dans un porno amateur albanais, tu serais pas vulgaire, Sophia Le Prou.
Alex Vizorek.
Oui, Charles.
Qui compose la triplette
du
jour ?
Moi, je suis là, bien à l'heure, au taquet, pour vous présenter la belle équipe du jour à 17h20. Celle qui vient du nord, tout en étant plutôt à l'est, c'est Constance.
Bonjour à tous.
Salut, comment allez-vous ?
Ça va bien, merci.
De quoi on va parler ?
Je vais développer une théorie scientifique. Merci de bien garder les mains à l'intérieur du véhicule.
Très bien. À 17h30, celui dont le business consiste à entraver le business des autres.
Oui.
C'est vous, Guillaume Meurice, bonjour.
Et bonjour à tous. Et je suis allé à un grand congrès du business, justement, pour savoir si au niveau de notre survie sur Terre, il serait possible de moins consommer.
C'est foutu. Là, c'est mort.
Ouais, bon, c'est ce qui me semblait. C'est mort, a priori.
Et enfin, à 17h40, évidemment, c'est faux quand je dis qu'elle lit un livre entre deux verres de pinard. Non. Elle boit un verre de pinard entre la lecture de deux livres. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour, Alex.
De quoi on va parler ?
Eh bien, je vais faire l'agence de voyage, puisque Thomas Cook y plante. Je vous emmène aux Caraïbes.
Très bien, il y a du taf.
Très bien. Et voici celui dont l'esprit va voler au-dessus de notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes.
C'est lui.
Vous êtes.
C'est moi qui donne mon nom.
Oui.
Eric Esmond.
Non, on est d'accord.
Charline Van Lacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Il y a tout qui bug dans cette émission, même l'invité. Bienvenue Eric Elmosnino.
Oui, bravo.
Pas mal. Après, ça s'appelle Manon Hacker.
Bravo, c'est de la moquerie pour le début de l'émission, là, non ?
Non, elle l'a bien dit, elle l'a bien dit.
C'est vrai. Alors, Juliette a eu la bonne idée de vous donner un bonbon pendant le générique.
Ouais. Alors, il s'est servi dans mes affaires.
Pris. Je l'ai pris, elle m'a dit oui. Donc, je le crache ?
Non, allez-y. Non, il n'y a pas de problème. Vous êtes sur scène en ce moment dans l'heureux stratagème de Marivaux, dans une mise en scène de Ladislas Chola, avec Sylvie Testu, avec Suzanne Clément, avec Jérôme Robard, que des comédiens qu'on adore au théâtre Édouard
Loire 7. Alex Vizorek, vous êtes allé voir Eric Elmosnino sur scène.
Tout à fait, je suis allé voir Marivaux, évidemment. L'heureux stratagème, je vous la fais courte, le point de départ. La comtesse, Sylvie Testu, tombe amoureux en un regard d'un beau gascon, Damis. Dorante, qui voulait la comtesse, c'est vous, est très malheureux. Et la marquise, Suzanne Clément, qui voulait Damis, est très malheureuse. Et donc, il va falloir que ces deux personnages trouvent un heureux stratagème pour faire revenir le désir des deux autres. Je pense avoir extrêmement bien pitché.
Dit comme ça, ça fait super envie d'y aller.
Non, c'est Marivaux.
Ouais, si on a 8 ans, ça fait hyper envie d'y aller.
Mais quelque part, c'est ça. Marivaux, c'est toujours assez simple.
C'est très sexuel, hein.
C'est sexuel.
Ouais,
et on apprend des choses. À un moment, la comtesse dit l'infidélité est un devoir.
Ah, ça, c'est Alex, il a retenu.
Ça, je peux vous dire que je l'ai noté, cette phrase-là.
Je ne peux pas forcément la faire les autres, moi.
Non, mais c'est ça, Marivaux. C'est-à-dire que le désir, au fond, dans cette histoire, parce que c'est de ça qu'il est question, de faire créer le désir chez les autres, c'est totalement intemporel. Et la simplicité de l'histoire n'enlève rien à l'écriture de Marivaux et à l'envie de savoir ce qui va advenir de ces personnages.
C'est ça.
C'est ça qui...
Moi, j'attendais la question et je me suis dit, ah ouais, peut-être c'est ça.
Non, on veut savoir quelque chose, mais quoi. C'était...
Tu veux savoir si c'est intemporel.
Si ce côté intemporel, ça vous plaît.
Est-ce que c'est intemporel?
Ça me plaît énormément, moi. Non, mais sérieusement, j'ai un peu envie de dire n'importe quoi.
C'est ouais, j'ai l'impression, mais j'ai d'autres questions.
Non, mais je sais pas pourquoi. Mais c'est vous un peu aussi, hein, c'est votre côté un peu, je sais pas.
J'avoue que c'est léger pour l'instant.
Vous n'êtes pas crédible. Alors, posez une question
j'ai
sérieuse.
J'ai une vraie question, parce que vous avez joué beaucoup les grands auteurs, Shakespeare, Molière, Tchekhov, Musset. Ouais. Cette langue de Marivaux, en quoi elle est différente des autres et en quoi elle est facile ou difficile pour un comédien?
Là, il va moins faire le malin.
Là, ouais, masterclass.
Ouais, là, c'est fini. Là,
allez,
là
masterclass.
C'est terminado. Non. Je sais pas. La vérité, c'est que c'est pas si facile, oui. C'est vrai. Tu sens qu'il a voulu faire un peu compliqué, notre ami, au lieu de dire les choses simplement. Mais c'est quand même assez magnifique. Donc, du coup, effectivement, on raconte toujours les mêmes histoires. Voilà. Les amoureux est conduit, et puis t'es fou de quelqu'un, donc t'as envie de la reconquérir. Mais avec une écriture, avec une langue, voilà, un tout petit peu dingue.
Parce que donc là, vous avez répondu à ma première question.
Ah d'accord, ok.
En élu dans la seconde, cette langue dingue. Parce qu'on a vu Michel Escaut pour parler de Feydeau. Et l'écriture de Feydeau, on parlait du côté millimétré. Chez Marivaux, il y a plus de respiration, il y a plus de plaisir d'acteur et moins de...
Non, il y a un plaisir dingue à jouer Feydeau. Enfin, j'espère que Michel a du plaisir à jouer Feydeau.
Non, c'est il disait qu'il
génial.
Se faisait un peu chier. Mais
vous l'avez joué aussi non, il y a pas si longtemps.
Ouais. Mais Marivaux, en fait, ça demande une concentration. Moi, c'est ça que j'ai découvert un peu. Voilà. Plus, par exemple, que pour Molière, que pour d'autres langues, ça demande une concentration incroyable. C'est une partition. Voilà. C'est une partition. Faut être hyper précis. Alors, on l'est pas tout le temps, hein. On l'est pas. On commence seulement, donc.
Attendez peut-être 2 mois avant d'aller voir la pièce.
Non, voilà, ça l'était. Moi, j'ai pas constaté.
Non, n'attendez pas, non.
Donc, on attend de la précision. On attend de la précision de ses partenaires de jeu.
Je vais me faire défoncer. Moi, ouais. C'est le mec qui entend après. Ouais, attendez avant de venir. Non.
T'es
venu pour un peu dire aux gens venez. Alors, donc, non.
On attend de la précision de ses partenaires de jeu aussi.
Alors... Oh oui, moi j'attends plus rien de mes partenaires. Non, franchement, ils sont lamentables. Hein, c'est lamentable. Mais je suis là pour tenir la baraque, ça va.
Depuis 88, vous n'avez presque pas quitté le théâtre. Parce
absolument.
Que vous êtes devenu star de cinéma.
Bien
vous,
sûr.
Vous connaissez pour ça, mais vous bien avez sûr. Tout le temps joué en alternant les grands auteurs et les contemporains.
Les
non, les contemporains. Alors on va dire les classiques. Non, je vous dis. En fait, vous êtes venu pour me pourrir l'après-midi, Elmosnino.
Un petit peu.
Moi, je l'avais pas
un petit peu.
Moi, j'ai
je fais ce que
pièce.
Je veux.
Moi, j'allais dire aux gens d'y aller.
Moi.
Quand il dit du Marivaux, eh ben, c'est bien. Donc voilà. Ça, je vais la faire voilà. La promo, moi.
Voilà,
parce
voilà,
que
vas-y,
sinon, dans la vie, humainement, on voit bien que c'est une saloperie.
Bien sûr. Oui, mais faut pas m'inviter.
Dernière question, juste par rapport au personnage féminin.
Oui.
C'est eux qui tiennent les ficelles. C'est en ça qu'elle est très contemporaine.
C'est elle, du coup. Alors.
C'est ouais, eux, voilà. Les personnages.
Voilà, c'est ça.
Le personnage.
C'est ça, voilà.
Jusqu'au bout.
Oui, c'est
jusqu'au bout, il va me
non,
pourrir.
Non, mais c'est important, le français. C'est important.
Charlie.
Alex, vous qui voyez beaucoup de théâtre, oui, vous êtes revenu très enthousiaste.
Moi, j'aime bien quand on joue les grands textes parce que, évidemment, il y a une espèce de certitude. Ici, ils l'ont changé d'époque. On est plutôt dans côté Gatsby, le magnifique.
On est dans les années 20, 20, 30.
C'est à moi qu'elle a posé la question.
Ah, pardon.
Vous, c'est fini.
C'est moi qui vais répondre là. Non, mais c'est Downton Abbey, c'est cette ambiance-là, quoi. Mm-hmm. Donc, non, et pour être sérieux 2 secondes, je crois que le spectacle est vraiment très beau aussi visuellement. Je sais pas si vous confirmez.
Oui. Interrogez-moi. On va faire comme ça. Si, posez-moi les questions.
La scénographie, les costumes, tout ça. Franchement, non, c'est un très beau spectacle, je crois.
Et une très belle distribution aussi avec donc Eric Elmosnino, Sylvie Testu, Suzanne Clément et Jérôme Robard. C'est donc
au théâtre Édouard VII, l'heureux stratagème de Marivaux dans une mise en scène de Ladislas Chola. Éric Elbostino est avec nous jusqu'à 18h et ça va pas être triste.
Courage, Marie, c'est nous. Courage.
Comment ça, 18h? Mon amour, avant de voir où rendez-vous, mon amour.
La javanaise, Paris Guy Pop, pour Éric Elmosnino,
oui,
qui vient de nous dire, ah bon d'accord, moi j'ai le choix entre Gainsbourg ou Sardou depuis la famille Bélier, Djoubaka, programmation musicale, entend ça, il va venir débarquer, chers auditeurs, dans le studio d'une minute à l'autre. Éric Elmosnino avec nous, qui est au théâtre Édouard VII en ce moment, dans l'heureux stratagème de Marivaux.
Et la pièce est à 20h.
Oui.
Si vous pouvez le dire, ça, parce que si les gens viennent à 21h, on aura presque fini.
Mais
déjà.
Attention, à 20h, à partir du 12 décembre, ce sera 21h.
Exact.
Il y a aussi le samedi.
Pourquoi un élément de langage.
Pourquoi
parce
que, comme ça, ça sert
parce
à quoi
que vous connaissez un seul élément de promo, et même celui-là, vous le connaissez pas.
De quoi? Qu'on passe à 21h le 12 décembre? Bah, arrêtez, je vous en prie. Arrêtez de me parler comme ça, hein. Je m'en vais.
Sinon, il y a le samedi, 16h et 20h, pour vous qui n'habitez pas Paris, qui vous peut-être venez en week-end, le dimanche à 16h.
Les gens qui n'habitent pas Paris vont viennent au théâtre à Paris.
On dit ça, c'est...
Faites un peu en plus, c'est les journées sans voiture.
Pauvre machine, ça manquait à votre bonheur.
On fait un peu de démagogie. Enfin, un peu de démagogie pour les gens qui n'habitent pas Paris, n'est-ce pas, chers auditeurs? Alex, pour entourer Eric.
Je n'en peux plus. Je vais mettre une RTT. On a le droit. C'est possible. Mais bon, sont là pour me soutenir Constance, Guillaume Meurice et Juliette Arnaud, par ordre d'apparition.
J'aime la gaieté et il est vrai. À la surprise de certains, le prétendu scandaleux que je suis a pris du lésé.
Le journal de presque 17h17.
Voilà, là je comprends.
Et on commence par les titres.
Emmanuel Macron est actuellement à New York pour le sommet de l'ONU sur le climat.
Eh oui, dommage qu'il ne soit pas allé avec Thomas Cook qui serait bloqué là-bas. Et sur le coup, ça nous aurait fait un peu de vacances à nous.
Greta Thunberg et 15 autres jeunes ont intenté une action juridique contre 5 pays, dont la France.
Et j'espère que c'est pas Éric Dupond-Moretti qui va dépendre la France, sinon on est foutu.
Des brèves.
Eh oui, des brèves, c'est comme Greta Thunberg, il faut les écouter.
Le sujet du jour, le sommet de l'ONU.
Évidemment, et on a même demandé à Jean-Michel Blanquer son avis sur Greta Thunberg. Qu'est-ce qu'il en pense ?
ça ne sert à rien de tirer sur une locomotive. La France aujourd'hui est une locomotive contre le réchauffement climatique.
Et bien sûr, une locomotive au charbon, évidemment, mais une locomotive quand même.
Quant à Emmanuel Macron, il a jugé les positions de Greta Thunberg sur l'environnement très radicales et de nature à antagoniser nos sociétés.
C'est ça le problème, c'est qu'en matière de climat, on peut pas être ni l'un ni l'autre. Et ça se réchauffe et en même temps, c'est vrai qu'avec une bonne crème solaire, on peut passer à travers. Ça, c'est du
évidemment, il nous manquait Donald Trump qui a ironisé sur Greta Thunberg, je le cite, cette jeune femme très heureuse, dit-il.
Oui, alors il n'a pas regardé beaucoup les images de Mélania quand elle est à ses côtés, parce qu'elle ne sourit pas les masques non plus.
Et à l'ONU, Trump a également déclaré « Je crois beaucoup à l'air pur et à l'eau pure, et tous les pays devraient se mettre ensemble pour y parvenir. »
Et voilà, le chef du monde peut devenir Miss France, c'est possible.
Une page Brexit, car la Cour suprême britannique a jugé illégale la suspension du Parlement, décidée par le Premier ministre Boris Johnson.
Oui, il faut qu'il se méfie, Boris Johnson. Tenter de forcer la main à son Assemblée, ça finit toujours mal.
Bah, prenez Valls avec son 49-3. Chirac avec sa dissolution.
Eh oui, tous les deux aujourd'hui sont dans l'oubli. Hein, l'un au figuré et l'autre au sens plus strict.
International, oui. Toujours 2 femmes et 9 enfants de djihadistes ont été rapatriés en France.
Eh ben voilà, quand on part pas avec Thomas Cook, on revient plus facilement.
Sans transition. Suite à l'attentat raté de Notre-Dame en 2016, 6 femmes et 2 hommes ont été jugés hier pour avoir garé une voiture remplie de 6 bonbonnes de gaz face à la cathédrale.
Ils doivent avoir bien le seum, ces djihadistes. Fallait se faire chier comme ça alors qu'il suffisait de laisser traîner une clope.
Technologie maintenant, car Google annonce avoir atteint la suprématie quantique.
C'est super, mais je ne sais pas ce que c'est du tout.
Bah, moi non plus.
Oui. En revanche, ce que je sais, c'est qu'ils n'ont toujours pas atteint le centre d'impôt le plus proche, Google. C'est ça qu'on aimerait bien.
Sport avec le PSG, le camp des loges, la base arrière du club a été cambriolée. A priori, plusieurs maillots ont été volés.
Oui, en revanche, les malfaiteurs ont eu beau chercher, n'ont pas pu mettre la main sur le trophée de la Ligue des Champions. Comme les joueurs d'ailleurs.
Bref.
Oui, j'ai le somme. Paris, on observe une recrudescence du vol de Rolex dans la capitale, selon le Parisien, plus 28% par rapport à 2018. À mon avis, pour trouver des coupables, il faut chercher les gars parmi les gens âgés de 49 ans hein, qui ne veulent pas rater leur vie.
Et la dernière,
Guyane, le cargo transporte des fusées spatiales et de la cocaïne. Hein, ils avaient tout pour faire du space cake.
Merci Alex, vous écoutez Par Jupiter sur France Inter avec Eric Elmosnino, dont on ne sait pas pourquoi il est là, je pense qu'il sort un disque. Un disque de Marivaux.
Mais à 20h.
En tout cas, le disque sort à 20h.
Putain, ça envoie maintenant, c'est bien.
C'est vous qui avez commencé.
Ah, d'accord, ça va.
Eric Elmosnino, avant de filer au théâtre Édouard VII, on va vous soumettre 3 petits sujets d'actualité.
Oula, vous n'allez pas être déçu.
D'abord, les Européens se sont réveillés lundi en apprenant la faillite du voyagiste Thomas Cook, qui s'est produite durant la nuit. Alors les vacanciers, eux, se sont réveillés sans hôtel, sans avion. En attente d'être rapatriés. 600 000 rapatriés, on se croirait en temps de guerre, mais une guerre en maillot de bain. Comment se déroule cette situation inédite dans les aéroports ?
Ici, hôtel, suite et fin.
Je suis désolée, mais j'ai un problème de surbooking et le Club Med est prioritaire.
Qu'est-ce qu'elle dit là ?
Il est surbooking. En principe, il y a un autre vol demain midi.
Comment ça, en principe ?
Vous avez des bagages ?
Attendez, mademoiselle, je dois rentrer à Paris aujourd'hui.
Mais oui, je sais, madame, tout le monde me dit ça.
Et en cabine ?
Non, je viens d'y mettre 3 enfants.
Et ouais, attendez, j'ai fait 6 mois d'hosto pour pas avoir un uniforme. Alors vous me tenez un billet, sinon je me fous sur les roues de l'avion.
Je prends
ça. Ah, pilote, j'ai une place pour toi si tu veux.
Pour moi ?
Oui, je me suis démerdé.
Patrick !
Qu'est-ce qu'il y a ?
Regarde, il a une place pour moi.
Comment t'as eu ça, toi ?
Carte de presse oblige, je dois rentrer pour témoigner, moi.
Patrick.
Vas-y, ça sert à rien qu'on reste tous les deux ici.
Ah bah c'est bien le bordel. C'est Qu'est-ce que bleu, le film de Gérard Jugnot. C'est assez vertigineux cette nouvelle quand on s'est réveillé lundi matin. Quel aspect vous a le plus frappé dans ce sujet d'actualité?
Ah bah là vous allez, alors là démerdez-vous. Déjà quand il connaît le sujet, il est pas pointu.
J'étais même pas au courant que Thomas Cook ça existait encore. Pour moi c'est une espèce d'agence qui date des années 70,
mais
non?
Mais pire, 1841.
Ah non mais d'accord.
C'est la première.
D'accord.
C'est la
première
toute première au monde.
Ah ouais c'est ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est un truc qui date d'un
siècle. Mais c'est vrai. C'est la plus ancienne au monde.
Et donc c'est vrai que je faisais pas tellement attention à ce qui leur arrivait à ce Thomas Cook. Ça fait un peu truc de sardine. Quoi.
C'est-à-dire
marque de non
oui,
Macron
oui,
en boîte
vois,
ou
oui,
non
un Captain petit peu Captain
voilà,
Igloo.
On a le droit de dire des trucs comme ça.
On a le droit.
Ah oui,
on a le droit de tout dire.
Non mais sinon sérieusement, ça a l'air terrible pour ces pauvres gens qui vont en vacances en mois de septembre. Et en même temps bon bah tant pis, j'arrête de dire en même temps surtout. Et donc je ne sais pas quoi, je m'en fous un peu.
Oui.
Ouais, honnêtement, ouais.
Ça nous étonne. On pensait vraiment que vous aviez un avis pointu.
Non, vous aviez une solution. On verra sur vos autres sujets, mais là, Thomas Cook.
Les vacances comme ça, grandement organisées, c'est des choses que vous avez fait, vous avez vécu, essayez d'éviter.
Non, je fuis un peu ce genre de truc, pour être sérieusement. Mais c'est pas pour ça que je veux du mal aux gens qui partent en vacances organisées.
D'autant que c'est toujours triste quand ça touche aux vacances des gens qui sont les gens de la petite classe moyenne ou plutôt classe populaire, parce que Thomas Cook, c'est des voyages organisés. Les vacances, c'est sacré.
Ouais.
Ils travaillent comme des bœufs toute l'année. Moi, je trouve ça tristoun.
Et puis, il y a des gens qui ont perdu leur emploi.
Ça, en fait, que quoi, ils ont fait faillite, en fait. C'est
voilà.
Ça
ouais. Oui, alors. Eh ben, dis donc, vous êtes au taquet.
On va revenir au début du sujet.
Ils ont raté le tournant du web.
Ça s'appelait donc la faillite de Thomas Cook. Il y a un indice dans le titre du sujet.
Il y a un aspect pour lequel on peut rigoler un petit peu. C'est que les touristes britanniques, ils sont rapatriés, mais grâce à une directive européenne.
Peut-être les calmer un peu.
Ah, on est d'accord, Eric Elmosnino. Bon, bah, si ça trouve, il y a peut-être des Français coincés et qui avaient leur place pour le théâtre Édouard VII.
Non, ça c'est moins drôle. Ouais.
Je savais que j'allais vous concerner par le sujet.
Il y avait un monsieur anglais dont le vrai nom était Thomas Cook. Et il avait réservé son voyage de noces via Thomas Cook. Et donc, ils lui ont promis vraiment de faire grandiose parce que c'était quand même si rigolo. Et il est coincé.
Ça dépend.
C'est vrai,
ça.
Double peine. Oui, c'est vrai.
C'est une vanne.
Non. Alors, jamais.
Ça aurait pu.
C'est une brève.
D'accord.
On ne rigole pas avec
les brèves. C'est factuel.
Oui, non, c'est vrai.
C'est vrai qu'il faut trier le bon grain de livret dans cette émission. le bon grain, c'est Constance.
J'aurais dit l'inverse.
Connaissez-vous l'espérance de vie d'une palourde?
C'est ça le bruit, c'est pour ça?
Il y a des effets spéciaux.
Non. En moyenne, 170 ans.
Mais non.
On a même retrouvé une palourde de 507 ans. Pourquoi je vous parle de ça?
Je sais pas, cette émission, c'est la quatrième dimension. Donc allez-y.
Mais qui calcule l'âge des palourdes?
Oui, c'est une bonne question.
C'est pas con.
C'est vrai que c'est pas con. Je parle de ça parce que le 26 septembre, je pense qu'on m'a arrêté le bruit d'eau.
Est-ce qu'on dirait que tu pètes dans ton bain?
Non,
Un
non.
Peu.
Je prends pas de bain, c'est
une émission sur France Inter, moi.
On est vraiment en direct là où je suis en train de faire un rêve bizarre.
Écoutez-moi, s'il vous plaît.
Oui, les palourdes. J'ai travaillé. 507 ans.
Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que le 26 septembre, c'est la journée des grands-parents. Et jusqu'à présent, je ne crois pas avoir entendu parler d'une telle longévité chez les êtres humains. Pourquoi avons-nous une espérance de vie beaucoup moins importante que celle des palourdes? Eh bien, tout simplement parce que toute notre vie, on nous casse les couilles. Ce qui entraîne une importante diminution de la durée de vie. La palourde, heureux mollusque qui bouffe tranquille son plancton, ne doit pas se lever tous les matins pour aller bosser. Elle n'a pas dans son restaurant d'entreprise à manger tous les midis en face d'un collègue de travail qui s'appelle Denis et qui ne parle que de sa voiture, une BX, en mâchant la bouche ouverte, la nourriture immonde de la cantine qui sent toujours le chou, alors que ça n'est jamais du chou. Elle ne doit pas attendre d'avoir ses 2500 semestres et ses 3 millions de points pour partir à la retraite et enfin pouvoir commencer à se détendre. Elle n'a pas à se forcer à dire merci quand ses collègues à la con lui offrent un cadeau de départ à la retraite nul en débouchant du mousse chaud.
Eh tiens, on t'a offert une tasse.
Oh bah dis donc.
Les effets spéciaux.
C'est un plus.
Accrochez-vous.
Les immersifs, je trouve.
La palourde, alors qu'elle vient... On arrête avec les bulles. La palourde, alors qu'elle vient de se mettre en pyjama, d'enlever ses lentilles et de prendre un bon bouquin pour enfin se relaxer, n'a pas à aller ouvrir la porte parce qu'on a sonné et que surprise, ce sont ses enfants qui débarquent avec les petits-enfants sous le bras et un petit air enfariné en disant « Papa, maman, super désolé, la nounou nous a lâchés, vous pouvez garder Guy Barnabé et Gisèle Sidonie quelques jours ?» Jean-Patrice est fatigué, on part se reposer à Courchevel quelques jours. On filoche, on est mal garé, bisous. La palourde peinarde dans son petit fond marin sableux, n'a pas à gérer les lardons de ses lardons. Non, elle fait des bulles tranquilles dans la vase. Personne ne... Non, arrête pas de l'aimer. Personne ne l'appelle Pépé ou Mémé. Elle vous sabotez mon travail. Elle ne
trouve pas... Moi, je suis là. Merci. Moi et les trois auditeurs qui restent, on est là.
Moi, je m'en fous, je vais me réveiller, je le sais.
Elle ne doit pas rester souriante, même quand son petit enfant lui dit « Mais pourquoi est-ce que t'as de la barbe ?» Il n'existe aucun petit enfant palourde qui veut regarder 247 fois de suite le dessin animé. Les bébés palourdes ne dessinent pas sur les murs de la maison avec des gros feutres de toutes les couleurs parce que c'est joli les fleurs mémé sur les murs. Et puis j'ai aussi fait des dessins dans tes livres sans images, alors que putain, les livres sans images, c'était la Pléiade. La palourde vit plus longtemps parce qu'elle a appris à dire non, non, je ne suis pas disponible samedi pour le déménagement. Non, je ne ferai pas l'effort d'écouter le récit de vos vacances plus longtemps parce que ça m'ennuie tellement que quand vous parlez, je vais tomber dans le coma. Non, le dernier, le petit dernier n'est pas doué en musique. Par pitié, brûlez-le avec son violon. Bref, si vous voulez vivre vieux, apprenez à dire non et comme la palourde, buvez du vin blanc. Elle est vraiment nulle cette chute, donc j'en ai une deuxième nulle à vous proposer. Parce que peut-être que ça fera moins plus, je ne sais pas. Dis donc, lorsque on vous dit que vous n'êtes pas commode, répondez que vous n'êtes pas un meuble.
C'est mieux.
Le vin blanc, c'était mieux, je crois.
Eric Elmosnino, car le vin blanc.
Merci, Constance. Oh, pardon.
À réécouter. C'est parce que si oui, vous avez beaucoup ri, comme nous, à réécouter, bien sûr, sur franceinter.fr.
Les gens sont avec nous sur par Jupiter, hashtag sur Twitter, et des gens pensent que notre ami Finkielkraut a laissé du VLD.
Du LSD.
Dans les locaux.
Eric Elmosnino avec nous. Il expose ses peintures au théâtre Édouard VII. Et c'est pas des croûtes, hein, c'est vachement bien. Il y a même Sylvie Testu aussi, Suzanne Clément et Jérôme Robin.
La pièce est bien.
I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right.
Roy Head sur France Inter, au moment où Alex Vizorek me dit « La palourde a connu Marivaux, car elle vit 500 ans
bah ». Oui, elle a même connu les parents hein, de Marivaux.
Bah oui, bien sûr.
Marivonne, c'était, non ?
Ah ouais, voilà.
Eric Elmosnino est avec nous, dans une sorte de rêve. Peut-être on va réécouter l'émission demain, et on va se dire « Elle a existé, cette émission ».
On ne le fera pas, on y était à cette émission.
Eric Elmosnino, il ne veut pas vous le dire, parce que c'est quand même quelqu'un de pudique et de discret.
Oui.
Mais il est sur scène, au théâtre Édouard VII, dans l'heureux stratagème de Marivaux, mise en scène de Ladislas Chola, qui a bien du courage de mettre en scène Eric Elmosnino quand il est en forme.
On la salue depuis son burn-out.
Alors Eric, à côté de vous, il y a Guillaume Meurice qui chaque matin part avec son micro.
Voilà, bien.
Faire du comique d'investigation, je dirais.
Bien, oui. Voilà,
de la flânerie rémunérée avec vos impôts.
Parmerder des gens, on peut dire aussi. Eh bien écoutez, ça y est, on est sauvés. On est sauvés, la planète est sauvée, parce que Macron, il a dit qu'on ne devait pas avoir un agenda commercial contraire aux agendas climatiques. Donc ça y est, il a pigé, il a dû se coincer une couille dans un livre de Piketty, mais en tout cas, il a compris, et ça c'est chouette. Donc tout le monde est soulagé, immédiatement, on est tous soulagés ici. Greta Thunberg est rentrée chez elle, hein, Elle bosse au Burger King pour financer ses études dans le nucléaire militaire. Nicolas Hulot a repris deux fois du steak de dauphin au petit déjeuner. Le chef Raoni a complètement pété les plombs. C'est un truc de fou. Il a annoncé qu'il ouvrait un kebab à Ibiza. Bref, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Sauf pour ceux qui font du business. Alors là, eux, ils font un petit peu la gueule. Il faut qu'ils s'adaptent. Je le sais parce que je suis allé les voir ce matin dans un grand congrès qui avait pour thème « Réinventons l'expérience business ». Hein, ça, c'est vraiment, je dirais, la problématique qu'on a tous. Hein. On l'a tous, hein. De toute façon. Juliette me disait encore ce matin, j'arrive pas à réinventer l'expérience business. Non, c'est l'expérience Guinness, je crois. Mais, oui, c'est ça, voilà, bon, voilà. Enfin, je sais plus. Bref, mais c'est quand même quelque chose de passionnant, l'expérience business. Allons voir une première professionnelle du business. Est-ce qu'elle a réinventé l'expérience business?
On n'a pas réinventé l'expérience business. Je pense que l'expérience business est un peu réinventée toute seule parce que on a un écosystème où il y a plein d'entrepreneurs qui vendent sur leur plateforme, comme Amazon, par exemple. Et ces entrepreneurs, ils ont un peu réinventé l'expérience business eux-mêmes. Du coup.
Mais vous, non.
Nous, on est venus pour les accompagner.
Et est-ce que c'est facile d'accompagner la réinvention de l'expérience business?
Non, c'est pas toujours facile parce qu'il faut toujours penser au next move.
Ah voilà, ah. Ouais, ouais, c'est ça qu'on fait pas nous. Parce que pour nous, Move, c'est une station de radio. Hein. C'est la street cred un petit peu de la radio publique. Il y a des featuring avec Vincent Delerme, c'est cool. Je critique pas Move, attention, hein, je critique pas les collègues. Déjà qu'à chaque fois que je parle des auditeurs de France Musique, je me fais attaquer à coups de déambulateur. Donc je fais vachement gaffe. Mais là, je veux juste dire que ça n'a rien à voir. Je vous rappelle qu'on parle d'expérience business. Est-ce que cet autre participant au congrès arrivait, lui, à la réinventer?
Oui, en quelque sorte, puisque...
moyen, quoi.
L'expérience client, elle est...
L'expérience business ou l'expérience client?
L'expérience client,
oui. Ah ouais, mais là, il faut réinventer l'expérience business.
Business? Ah ben, renouveler l'expérience business, c'est... On disrupte complètement...
Ah, on y vient, Là, d'accord, là, l'expérience business, c'est quelque chose qui disrupte, bien évidemment. Là, on est au niveau 1 de l'expérience business. Eric, vous suivez?
Oui.
Oui, suivez, parce qu'ils vont vous remplacer par un hologramme au théâtre, un de ces quatre, sinon. Hein, déjà qu'en promo, à mon avis, ça se vaut. Bon, allez, on continue. On est toujours à fond sur l'autoroute de l'expérience business avec un concepteur de points de vente.
Et l'expérience business, bien sûr. Il s'agit de réinventer l'expérience. Business,
ouais, est-ce que vous réinventez l'expérience business, mais à fond?
Alors, on pense avoir la capacité d'effectivement faire redécouvrir une expérience business globale à un client.
Je sens un doute quand même.
Comment je fais rentrer mon client? Quelle est l'histoire que je lui raconte?
Ah là, ça c'est important, c'est important. Quelle est l'histoire qu'on raconte au client? Ça suivez, parce que le client il a déjà 12 paires de godasses, donc il vient pas pour en acheter une 13e, il vient pour qu'on lui raconte une histoire. Hein, c'est comme Alex quand il drague, par exemple. Hein, il invente une histoire à chaque fois. Oui, je suis doublure cascade de Rocco Siffredi. Voilà, il raconte une histoire. Hein, il faut des Guillaume Musso de l'expérience business. Il faut le faire rêver ce client.
Oui, bien sûr.
Parce que ça veut pas dire qu'on le pipote un peu?
Alors, tout dépend qui raconte l'histoire. Je pense que si c'est moi qui la raconte, je ne vais pas le pipoter. Maintenant, j'espère...
Et là, est-ce que vous n'êtes pas en train de me pipoter?
Je crois pas.
Non, je pense pas parce que moi, je les repère. Je les repère ceux qui pipotent. par exemple, on voit bien que Macron, par exemple, il pipote pas. Macron, c'est un vrai écolo. Dans son Falcon, il y a même un ficus qui s'appelle Pascal Canfin. Donc, il pipote pas. En revanche, Greta Thunberg, on sait très bien qu'elle est achetée par le lobby du tofu. Elle a faim. Hein, ça se voit, elle a croisé Trump, elle a voulu le bouffer hier. D'ailleurs, elle est dingue. Elle appelle carrément à moins faire de business. Faut pas faire ça.
Non, il faut vendre, mais des bonnes choses qui durent longtemps. Et non, il faut vendre, il faut continuer à vendre et à produire.
Mais si on vend des produits qui durent plus longtemps, on va moins vendre au final.
On est d'accord.
Ah, donc faut moins vendre.
Faut moins vendre.
Bah, alors vous voyez l'inverse.
C'est possible.
Ah merde, attends. Je crois qu'on s'est complètement paumé dans l'expérience business. Là. On l'a peut-être trop réinventé à ce moment-là. Alors le problème, c'est que l'indice de santé de notre société, c'est le PIB. Donc bon, autant mesurer notre taux de cholestérol en se plantant des couteaux dans les yeux. Parce que c'est la valeur ajoutée qui est importante et il faut acheter et racheter. Ça s'appelle l'obsolescence programmée.
Effectivement, si la vaisselle, au lieu de durer 10 ans, il en dure 15, on va modifier, on va changer moins longtemps les lave-vaisselle.
Alors ça, c'est bien ou pas?
Bah, ça dépend de quel côté. Si on est consommateur, oui, c'est très bien. Si on est professionnel, ça l'est moins.
Et si on est les deux?
Vous me posez une colle.
Et on est bien emmerdé. Et peut-être bien qu'on a bâti notre société sur un modèle économique complètement con. Mais pendant que le bateau coule, la boutique reste ouverte. Hein, après l'expérience business, réinventons l'expérience détresse.
Merci Guillaume Meurice. C'est une bien belle excursion que vous avez faite ce matin.
Oui.
Merci de nous en avoir fait profiter.
Ainsi
qu'il y a notre invité, Eric Elmosnino, qui, je rappelle, lance une ligne de vêtements. donc au théâtre Édouard VII.
On va voir si vous allez venir jusqu'au bout, comme ça. À m'inventer des trucs. On va voir, c'est bien.
C'est du mardi au vendredi à 20h. Mais attention, à partir du 12 décembre, ne vous trompez pas, c'est à partir de 21h. En revanche, le samedi 16h, Et alors le dimanche aussi.
C'est ça.
Voilà,
c'est ça,
exactement. Je vérifiais quand même.
Non, non, c'est ça.
Alors, on va passer à ce deuxième sujet. Donc, j'espère que il va vous botter.
Ah, bah, si, celui-là, oui.
Une partie des supporters de foot se sent stigmatisés par le gouvernement qui envisage une tolérance zéro envers les propos homophobes dans les stades. Certains supporters parlent de mépris des élites pour le peuple des stades. Ils parlent d'ingérence aussi, dans un des rares lieux considéré comme un défouloir. Heureusement, il reste le sage. Le sage, vers lequel on peut se tourner, c'est-à-dire l'arbitre.
L'arbitre, c'était un sale con. Il disait ça, il y avait un pédo, c'était même pas vrai. Alors, nous on était bien placés, on l'a vu. Ah, puis il a foutu un coup franc.
J'ai pris une galette dans la gueule. À un moment donné, il dit ça va pas la tête. Je lui ai balancé le rétang des frites, moi.
Et puis il y a le goal, il s'en est pris trois buts dans la tronche. À un moment donné, j'ai gueulé, j'ai dit t'as qu'à venir dans les gradins avec nous et tu les verras mieux rentrer.
Alors.
Ça fait vraiment chier, ça. Ils ont perdu. Et ça donne envie de tout péter. Hein. C'est vrai, hein, ça m'a donné tout envie de tout péter. Hein. C'est ce qu'on a fait.
Saladin dans les Deschiens, bien sûr, oui, Jérôme Saladin, Deschamps. Voilà. Et Macha Makaïev, bien sûr. Alors, c'est un article que nous avons trouvé dans Le Point. C'est rigolo. En tant qu'amateur de foot, est-ce que vous vous êtes fait un avis sur cette question, le gouvernement qui dit s'il y a des propos homophobes, si on dit Paris, on t'encule, bim, on arrête le match? Ça, vous avez entendu parler de ça?
Non, mais bien sûr, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas quoi penser, que vous voulez que je vous dise, moi, je ne sais pas.
Non, mais on va partir du début. Vous aimez le foot, vous êtes supporter.
Ouais, ouais, ouais,
et moi, vous êtes homophobe.
J'aime bien le foot et je suis homophobe, donc en même temps, voilà. je me sens à ma place dans un stade, moi. Pourquoi on vient m'emmerder?
Oui, alors là, c'est un cas particulier, on n'avait pas pensé.
Je vais revoir toutes mes questions.
Non, c'est vrai, moi, j'allais beaucoup au stade, j'y vais moins, ça m'amuse un peu moins. Je préfère regarder ça tranquillou chez moi.
C'est lequel votre club?
Non, j'ai pas de club, moi.
Ah bon?
Quand on est supporter,
on n'a pas de club.
Mais je suis pas supporter. J'aime voir du foot. J'aime regarder le foot, mais je suis pas supporter d'un club. Et je suis pas supporter de Paris. J'ai aimé à différentes époques Saint-Étienne, Bastia, Marseille, voilà. Donc moi, j'aime les clubs français. J'aime l'équipe de France. J'aime le foot. Mais après, je comprends, hein, c'est sûr que les mecs qui gueulent dans le stade et qui se défoulent, bon, ils viennent là pour ça. Donc si tu leur dis tu vas au stade, t'es gentil, tu t'assois et tu te tais,
est-ce qu'il y a pas un juste milieu à trouver?
On peut aussi, on peut aussi supporter son équipe. T'es pas obligé de dire arbitre enculé ou je sais pas quoi. Mais je trouve que c'était tellement passé, enfin, dans l'espèce de folklore débile et un peu effectivement idiot.
Mais est-ce que c'est pas ça le problème?
Que de pointer ça maintenant, je trouve, me fait un peu, je trouve que ça fait l'effet inverse pour l'instant. Alors, est-ce qu'il faut tenir ce truc et dire non, faut pas lâcher? Et puis, effectivement, petit à petit, ça va peut-être disparaître. Mais est-ce que ça empêchera dans la rue de dire à toi, espèce d'enculé, t'es un connard? Enfin, ça va rien empêcher.
Si on met le doigt sur l'homophobie, parce que notamment l'insulte enculé, tout le monde n'est pas d'accord déjà. Ouais. Mais en Italie, c'est énormément les cris racistes.
C'est
là où le président de la Fédé a fait une distinction. Est-ce qu'il faut la faire? Est-ce qu'il vaut pas mieux complètement éduquer les tribunes pour que ça n'arrive plus?
Non, mais éduquer, il n'y a pas à éduquer. Les gens, ils savent très bien qu'on fait pas des cris de singe quand il y a une personne noire ou qu'on dit pas espèce d'enculé. Les gens, ils le savent que c'est une insulte. Le type, tu l'éduques, tu vas pas lui dire, tu sais que c'est pas, ah bon, moi je savais pas, je croyais que c'était sympa.
Mais il le sait.
C'est juste que ça leur fait du bien d'insulter, ça fait partie du jeu pour eux, entre guillemets. Après, on peut discuter là-dessus. On peut dire, bah non, c'est pas drôle, non, il faut pas.
Les supporters de l'Inter Milan où joue Romelu Lukaku, donc belge mais d'origine congolaise, faisaient des cris de singe, ils s'en est plaint, et ils lui ont écrit une lettre pour dire qu'ils l'adoraient, qu'ils n'étaient pas racistes, c'était juste pour déstabiliser l'adversaire.
Après, ils sont revenus en arrière.
Oui, mais donc, sous-entendu, l'éducation, elle n'est pas complètement faite, ils sont pas. Pour eux, c'était pas du racisme. C'est là où c'est compliqué.
C'est pas qu'ils sont cons?
Non, mais bien sûr que ça rend con. La foule, le groupe, ça rend idiot, on le sait, ça rend idiot. Surtout si t'es un peu alcoolisé en plus. Enfin, il y a des facteurs un peu aggravants.
En effet.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît.
Nous-mêmes, on est six et on en fait pas une de bonne depuis.
Non, mais je sais pas, mais vous, c'est quoi votre avis? Alors, je sais pas, moi. Vous pensez quoi? Qu'il faut faire quoi? S'il y a 400 personnes qui disent oui, s'enculer, il faut faire quoi? Tu les interdis de stage.
Moi, je pense que c'est pas mal d'arrêter.
10 minutes. Moi, je dis on arrête 10 minutes. 10 minutes.
Sinon, ça va énerver.
Constance veut prendre la parole.
Oui, j'ai une idée. Les gens qui sont en colère, ils ont besoin d'amour. Peut-être on leur fait un bisou et après on recommence le match.
Ah, ça peut marcher.
Mais si t'as un peu de temps devant toi, Constance, tu peux peut-être faire le tour des stades le samedi soir.
Oui, mais il faudrait une équipe et pas toute seule. Je pourrais pas. Ça va finir vraiment tard.
On a quand même le droit de relever que les insultes, majoritairement en France et dans tous les pays du monde, en fait, elles sont ou sexistes, ou homophobes, ou racistes. Ouais. On peut aussi renouveler
comme
notre
dans
stock
la cour
d'insultes.
D'école depuis la nuit des temps.
Bah, on peut renouveler, on peut décider qu'on renouvelle.
Ou la gauche, capitaine Haddock.
Au lieu de dire enculé, tu dis enculé.
Ouais.
Comment vous faites?
Ah, c'est malin ça. Bah, enculé.
Tu changes
on t'encule, c'est joli.
C'est vraiment le mot qui te fait du bien. Vas-y, dis enculé.
Je ne veux pas qu'on puisse penser que je défends les amants politiques.
C'est trop tard. Là, je vois sur le site.
Mais c'est vrai que je ne sais pas trop quoi penser. Pour l'instant, je ne vois rien d'efficace.
En tout cas, je suis sur le site de la billetterie du théâtre. Ça commande sec.
Ça baisse.
Oui, là où Eric Elmostino vend des voitures tous les soirs à partir de 20h. Eric Elmostino, revenons à la littérature, parce que c'est un sujet sur lequel c'est difficile de... c'est un sujet complexe.
Je crois que c'est bien qu'on en parle.
On peut pas mettre un micro sous tous les sièges, comme dit le Point, effectivement, c'est compliqué.
J'aime toujours écouter le Point.
Oui, toujours. Et Juliette Arnaud.
Et surtout Juliette Arnaud. Le crime paye bien. On ne fait pas beaucoup d'heures et on voyage beaucoup. C'est une réplique d'un film, c'est « Prends l'oseille et tire-toi » de Woody Allen. Il y a longtemps, hein, avant qu'ils soient mariés, avant qu'ils aient des enfants. Guillaume, calmez-vous. J'ai toujours pensé que c'était un projet de vie assez tentant, le crime. Alors j'ai deux bémols pour moi-même le faire. À défaut d'être un être particulièrement moral, je suis assez froussarde. Et de toute façon, par mes qualifications, je n'ai pas accès à l'oseille. Le héros du jour, c'est-à-dire du roman, oui. Alors il est trader à Wall Street. Autant dire, il est à très peu de mètres de la piscine de dollars de l'oncle Picsou. Donc, en tant que trader, il gagne pas mal sa vie, mais, et je le cite, « exploiter ses semblables ne lui permet pas d'accéder au bonheur ». Alors, qu'est-ce qu'il va faire, notre héros? Il va bafouer les lois de Wall Street, envoyer profondément chier le système capitaliste et son mauvais karma. Ça, c'est le but. Le moyen employé, eh ben, il va tout simplement détourner 17 millions à ses clients, gros clients, riches clients, tout en mettant au supplice sa grosse banque qu'il emploie, et tout en travaillant son bronzage. Oui, le bronzage, parce que Brian, le trader, se barre aux Caraïbes, achète un voilier et y installe son larcin sous la forme de gros sacs marins remplis de billets. Vous remarquerez que là, on n'est pas très loin de la piscine de l'oncle Picsou, en mieux. Sauf que les employeurs de Brian sont suffisamment mécontents de cette perte sèche, 17 millions quand même, pour envoyer des gens pour arrêter Brian et sa course frauduleuse à la liberté. Et comme il vaut mieux que les clients volés de Brian ne soient pas au courant que la banque dans laquelle ils placent leurs coquettes économies est un moulin, la banque n'envoie pas la police, mais un trio d'enquêteurs. Les voilà, il y a Si Yoon, qui est une chef courtière à Wall Street, ultra douée, sauf qu'elle est sur le point de se marier et que l'idée de son futur mariage lui donne envie de se désorbiter les yeux à la petite cuillère. C'est pas très bon signe quand tu penses à ton mariage. Et puis il y a Neil, qui est chargé des recouvrements spéciaux, ultra douée aussi, mais qui se remet pas trop bien de s'être fait plaquer par son mec. Et Piet, un détective nain, très doué, lui aussi, mais ébranlé par ses parties de jambes en l'air avec Sio, la fille dont on parlait au-dessus. Et nous voilà embarqués pour la mer des Caraïbes, sans devoir être rapatriés par l'agence Thomas Cook, ce qui est sympa, pour 250 pages méchamment troussées, 250 pages pour un roman à la fois noir, donc saignant, et humoristique, et torride. Oui, parce que Sio et Piet, ils profitent avec tellement d'ardeur de la chaleur et du vent coulis des Caraïbes que ça te donne toi-même envie d'avoir des relations sexuelles, et politique, un portrait de Wall Street et des gens qui y bossent. Pour rappel, c'est de New York que Greta a piqué sa grosse colère, et tu comprends pourquoi, si bien sûr jusque-là t'avais un micro-doute. Et à la fin du livre, il n'y a vraiment pas de morale. Morale ou pas, crime ou pas, ce livre est un feel-good book. Un livre, tiens, je me sens bien quand je lis ce livre. Peut-être parce que ce livre te venge. Oui, un feel-good book, ça te venge. C'est ça le truc. Il te venge, par exemple, de ne pas avoir su où était la piscine d'oseille, et d'accepter que potentiellement jamais tu sauras si c'est possible, oui ou merde, de crawler dans des billets. Plus largement, il te venge momentanément de tes rêves d'enfant qu'on t'a volé. Greta, je te serre dans mes bras. Toi et ta longue tresse sage, quand tes yeux se crispent de rage et de chagrin, quand ton index tend pour pointer ceux qui ne font pas ce qu'il y a à faire. Venger momentanément, c'est peu. Mais c'est tout ce que j'ai à offrir. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, rappelez-nous les références de l'ouvrage, s'il vous plaît.
Alors, il s'appelle Coup de vent, il est signé par Marc Haskell, Smith et Chessé, et séché, j'y arriverai jamais de ma vie, Gallmeister.
Merci, merci Juliette, avec Eric Elmosnino qui fabrique de très jolis cendriers en rotin, qu'il vend à partir de 20h tous les jours au théâtre Édouard VII, dans l'heureux stratagème de Marivaux. On va aborder ce dernier thème avec vous sur les tournages. Les maquilleuses sont les premières arrivées et souvent les dernières parties. Et il y a quelques années, certaines déclaraient qu'elles étaient les prolétaires du milieu du cinéma. Pourquoi pas un César du maquillage, demandait Guillaume Gallienne après son film Guillaume et les garçons à table, alors qu'il n'y aurait jamais eu la môme sans l'art du maquillage, monsieur.
Eric, c'est toi qui as annulé la fabrication des prothèses? Tu me dis que tu veux faire un film sérieux et tu me sors des déguisements de train fantôme.
Non, attends. Qu'est-ce que tu racontes? Mais n'importe quoi. Non, c'est juste que là, j'ai pas le bon raccord, tu vois, au niveau du maquillage.
Qu'est-ce qui t'arrive, sérieux? Tu veux faire quoi? Tu veux faire la môme 2.0 ou la môme 2.5 s'attrape?
La question se pose même pas. C'est juste que moi, c'est mon côté bricolo. J'aime bien.
Eh ben, tu sais quoi? Va faire tes films chez Castorama.
Vous avez reconnu, Eric, en effet, Platane, la série d'Éric Judor. Ce serait quoi les métiers les moins bien considérés du cinéma? Et est-ce que les maquilleuses sont dans le lot?
Je crois pas que ce soit un métier qui soit pas considéré. C'est effectivement une catégorie qui n'a pas son César. Alors, je sais pas, est-ce que ça veut dire que ça veut dire que t'es pas considéré? Il y a, par exemple, la régie aussi, qui fait un travail incroyable sur les tournages, les régisseurs, qui sont eux, pour le coup, vraiment les premiers arrivés, les derniers partis, qui n'ont pas non plus de César. Enfin, je veux dire, après.
Non, alors, au-delà du César, c'est aussi le salaire qui est.
Ah, d'accord.
Les heures supplémentaires, etc.
Et alors, encore moins, vous êtes encore moins, a priori, que quoi, que les machinistes, les électros et tout ça?
Apparemment,
ouais.
Oui.
Ah, ouais, apparemment. Ouais. Bah, ok, c'est pas bien, alors. Ouais. C'est tout.
C'est un moment important. Enfin, c'est quoi comme moment pour un acteur qui va entrer en plateau? Le moment du maquillage.
Maquillage, coiffure, en général, c'est les premières mains dans lesquelles on se met quand on arrive le matin. C'est hyper important, c'est vrai. Ouais. Tu passes par eux, l'habillage, le maquillage, coiffure. Bon, moi, personnellement, c'est un moment où je préfère le faire le plus rapidement possible. Mais pour les actrices, pour les actrices qui passent beaucoup plus de temps, et certains rôles qui te demandent aussi, comme par exemple notre ami fumeur de gitane, où je passais un paquet de temps, c'est hyper important d'avoir des gens bien, et puis des gens avec qui aussi tu t'entends bien, parce que tu passes du temps avec eux, quoi. Ouais. Tu t'en remets quand même à eux. Hein.
On se confie à eux aussi. Enfin, si les maquilleuses devaient utiliser comme
coiffeur,
le...
Ouais. Côté chez
coiffeur,
quoi, c'est ça.
Non, je sais pas. Ouais, plus que ça, souvent dans les...
Plus que ça.
Ah oui, elles font aussi nounou, elles font un peu curé, elles font un peu psy, elles font un peu...
Tout ça pour le même salaire.
C'est bien dans leurs bras que les actrices viennent pleurer.
Ouais, c'est possible, je sais pas.
Et vous, c'est un moment où vous êtes...
De toute façon, même sans en rajouter, on n'a pas besoin de rajouter qu'elles font ça et ça pour qu'elles soient payées correctement. Oui, je veux dire, par rapport au boulot qu'elles font, elles doivent être payées.
D'autant plus que les études coûtent cher.
Ils doivent être payés, pourquoi on dit elles d'ailleurs? Il y a des maquilleurs et des coiffeurs.
Majorité, c'est au maquillage, c'est des filles.
Non, détrompez-vous.
Vous avez déjà croisé des maquilleurs hommes?
Bien sûr. Ah.
Oui, mais en majorité, c'est que ça reste quand même des femmes.
Sûrement, mais moi, j'en connais beaucoup, des coiffeurs maquilleurs.
Oui,
bien sûr.
Oui, mais en majorité.
En fait, ils veulent absolument
son business truc, lui. D'accord.
Alors, moi, je mets les réponses dans les questions, et eux, si vous répondez pas, vous donnent la réponse. Wow. C'est un peu le système de l'émission. Eric Elmosnino, est-ce qu'on pourrait jouer avec vous? Vous serez d'accord?
Oui, avec plaisir.
On propose un sketch à l'invité quand c'est un acteur de salon. Et là, c'est pas n'importe quel rôle.
Non, bien sûr.
Vous êtes Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Attention.
Vous lui en voulez un peu, non? La petite suédoise.
On l'adore.
C'est pas... Vous l'aimez bien?
Ah, d'accord. De vous donner ce rôle-là, peut-être ça veut dire qu'on lui en veut un peu. On vous fait confiance.
On ne savait pas avant.
D'accord.
Tenir le personnage, parce que peut-être il y a un biopic qui va se faire.
D'accord.
Après Gainsbourg, vie héroïque, découvrirez Eric Elmosnino.
Découvrirez
dans...
ça quand même. Le mec, il ne sait même pas. Il y a un troisième mot déjà.
Vie climatique, le biopic de Greta Thunberg.
How dare you! You have stolen my dreams and my childhood.
Celle qui défie les plus grands de la planète.
Mr. Trump, va falloir tout changer.
Qu'est-ce qu'elle a, la Chris Pauls?
Je ne suis pas une Chris Pauls. Je suis une citoyenne du monde qui veut sauver la planète.
Fake news!
Non, ce sont les scientifiques qui l'ont dit.
Fake scientist!
Mais que savez-vous de la planète?
Elle est plate.
Oh là là! Vous n'êtes pas allé à l'école.
Trop dangereux aux États-Unis, on pourrait me tirer dessus.
Je suis ici pour demander l'aide des plus grands pays comme les États-Unis.
Ah, ça, c'est un vrai news. America is great again.
Face à l'adversité, Greta a parfois pensé abandonner. Mais son combat était plus grand qu'elle et ses doutes.
Mais que faire? Les adultes ne m'écoutent pas.
Tiens bon, Greta.
Oh, qui me parle?
C'est moi.
Mais qui, moi? Je n'ai pas d'amis à part ma gourde en plastique.
Moi, la Terre. Merci pour tout ce que tu fais pour moi.
Ah bon?
Oui, tu as pris un bateau pour moi.
Ah ben... Ben oui.
Tu as aussi... tu as porté plainte contre la France.
Et Macron n'était pas contente, Madame la Terre.
Bien fait. Il dit partout qu'il est champion de moi.
J'en peux plus des humains. J'ai l'impression de tourner en rond.
Un petit peu comme moi.
Hein?
Non, laisse tomber. Si c'est, ce c'est de l'humour d'astrophysique.
Pardon, je ne maîtrise pas bien les second degrés.
Elle n'a jamais baissé les bras.
Mr. Trump? Êtes-vous là? Je vous présente la Terre.
Ok, où est son poussé?
Ah ben c'est élégant. Je pense que je vais ouvrir la faille de San Andreas un jour et ça va bien le calmer.
Alors, Mr. Trump, les écosystèmes entiers s'effondrent. Que comptez-vous faire contre cela?
Ah, le magas, Fifi Brandassier. Pour sauver les écosystèmes, je vais construire des McDonald's.
Ah, mais quel rapport avec la planète?
Aucun, mais j'aime bien manger leur hamburger.
Un jour... Va exploser.
Et moi aussi.
Greta, vie climatique, bientôt dans toutes les salles climatisées de France.
Coupez la clim.
Ah non.
Merci, Eric.
Merci, merci, merci. Je suis sur le site des réservations du théâtre. C'est bon, il n'y a plus personne ce soir.
Et je rappelle qu'Eric Elmosnino répare ta bagnole tous les soirs à 20h au théâtre Édouard VII dans l'heureux stratagème de Marivaux, mise en scène de Ladislas Chola, recommandé par Alex Vizorek, je tiens à le dire, avec Sylvie Testu, Suzanne Clément et Jérôme Robard. Vos magnifiques.
Et il y a trois autres acteurs aussi qui sont formidables.
Allez-y, dites-le.
Florent Simon et Jean-Yves. J'ai pas leur nom de.
Ça fait que deux là.
Nom de famille en.
Et maquilleuses qui sont chouettes aussi.
C'est un peu gênant. Hein.
Arrêtez déjà, vous m'avez pourri le truc là.
Demain,
en une heure.
On reçoit l'activiste Elliot Lepers demain.
Ah oui.